Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Il pleut, il ne s'arrête plus de pleuvoir. Est-ce qu'il pleut dans nos cœurs? Ça, nous allons peut-être le voir dans les deux heures qui viennent, puisque c'est vous qui allez nous appeler sur cette antenne au 3921 pour vous raconter, pour nous raconter votre quotidien et peut-être quelque chose dans ce quotidien qui ne va pas très bien. Mais nous sommes là, je vous le rappelle, pour vous écouter et pourquoi pas pour trouver des solutions, chers amis. 39-21, 50 centimes d'euros la minute. 7-39-21, suivi du mot nu, écrit en lettres majuscules, suivi dans l'espace. Vous nous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr. Et puis toujours notre groupe Facebook, Yann Moix, Olivier Delacroix, la Libre Antenne, où vous pouvez adresser vos messages à ces deux jeunes gens charmants que sont Florian et Julia, accompagnés ce soir de Laurent, notre réalisateur, et de notre invité Clément, dernier petite recrue de la grande maison de CCCP. C'est comme ça, production, qui est notre invité spécial ce soir. Voilà, tous à vos téléphones, donc, pour celles et ceux, bien évidemment, qui ont envie d'échanger. Votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et avant de commencer cette émission, je sais, Florian m'a dit que vous étiez nombreuses à avoir réclamé le titre du livre dont je vous parlais l'autre jour sur les anges. On a évoqué cela à plusieurs reprises. Ce livre, c'est « Suis, elle connaît le chemin ». Donc, vous pouvez trouver ce livre. On va vous mettre toutes les références, bien évidemment, sur notre page Facebook. « Suis ton âme, elle connaît le chemin ». Voilà, c'est « Suis ton âme, elle connaît le chemin ». Un témoignage puissant et inédit sur l'au-delà. Un livre vraiment qui éclaire quelques-unes de nos zone d'ombre, en tout cas pour celles et ceux qui croient un temps soit peu à l'au-delà, à un monde parallèle, en tout cas un monde, le monde d'après. C'est un ouvrage qui a été écrit par Virginie Bobet et Violette Germont. Et il y a dans ce livre des choses passionnantes et en même temps il y a une résonance particulière à travers ces lignes. Je vous le conseille vraiment, pour peu que vous le preniez comme un roman au début, et vous verrez ce que vous y puiserez, chers amis. Suis ton âme, elle connaît le chemin. Voilà. On mettra bien évidemment toutes les références sur notre groupe Facebook. Pour le moment, nous accueillons Stéphanie à la Libre Antenne à 23h12. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous?
Écoutez, si je vous appelle, je vais toujours dans l'ensemble positivement bien, mais en même temps, j'en ai un peu gros sur le cœur depuis ces dernières 48 heures, parce que je reviens d'une semaine de vacances, oui. où normalement je suis revenue en pleine forme. Et pendant la semaine où j'étais en vacances, eh bien écoutez, à mon retour, on s'est permis en fait de restructurer. J'étais en période d'essai quelque part dans une grosse entreprise. Et en fait, à mon retour, on m'a dit, finalement, vous n'allez peut-être pas très bien. On met fin à votre période d'essai. Une période d'essai qui était renouvelable, assez longue.
Oui.
Je suis assistante de direction. 4 mois renouvelables une fois.
Vous les aviez fait, les 4 mois, déjà?
Les 4 mois, j'avais fait déjà.
D'accord.
Et en fait, ça a été renouvelé le 28 juillet.
D'accord.
Pour une deuxième période. Et au moment en fait où on m'a renouvelée, j'avais ma responsable qui était là depuis 4 ans, qui a été remercié. Donc, en fait, une DRH et un nouveau directeur, un managing director est arrivé aussi dans cette entreprise.
Oui.
Je ne sais pas si je peux citer le domaine d'activité.
Si, vous pouvez citer le domaine d'activité. Évitons de citer.
Oui, je sais bien. Donc, il se trouve à faire des projets hospitaliers clés en main.
D'accord.
À l'étranger, et j'étais dans la filiale française.
D'accord, très bien.
Voilà. Donc, quand même, un domaine plutôt sympathique, plutôt au niveau de la santé.
Oui.
Et donc, équipe, restructuration, on n'était qu'une petite équipe, en fait, d'une dizaine de personnes. Et moi, j'étais en ce qu'on appelle l'exécutive assistante, l'assistante en chef, office manager, à fédérer un peu toutes les personnes qui travaillaient, surtout à organiser le travail au quotidien de cette filiale.
D'accord.
Voilà. Donc, juste avant que je parte en vacances, il y avait donc deux, ce qu'on appelle des ingénieurs commerciaux, qui avaient des comportements déjà un petit peu, j'ai 54 ans pour les auditeurs, pour situer quand même que je ne suis pas novice dans ce métier-là. J'ai déjà rencontré aussi des formes d'intimidation dans mon travail, j'ai pas mal d'expérience, qui se permettaient, j'avais un bureau toute seule, de rentrer dans mon bureau sans frapper à la porte, de me donner des ordres, de
des
manquer
hommes.
Un peu de respect.
Des hommes.
Des hommes, oui, mm-hmm. Des hommes uniquement, mm-hmm. Voilà. Donc, en fait, deux hommes, plutôt une majorité de femmes dans cette petite équipe, mais âgées. Pas des gamins de 20 ans, et le nouveau, si je peux me permettre, sans critiquer, et le nouveau managing director, âgé de 42 ans, à mon avis, un jeune loup tombé, qui doit faire aussi ses preuves, et certainement, peut-être, à remettre une nouvelle équipe en place. Donc, je dis, je ne comprends pas pourquoi on ne renouvelle pas, donc à mon retour, on me dit, on vous verra, etc. On va rediscuter de la réorganisation pour préparer la rentrée. Et finalement, on me dit, finalement, vous nous avez planté, Stéphanie. Vous êtes partie en vacances. Et comme on organise un gros séminaire le 10 et 11 octobre, on avait besoin de vous.
Alors, est-ce qu'on vous a demandé de rester déjà ? Est-ce qu'on vous,
pas du tout. Justement, j'avais demandé justement s'il y avait besoin d'un coup de main, comme je ne partais en Espagne que le 12 septembre, je pouvais décaler un peu 48 heures avant s'il fallait donner un coup de main, comme c'est une petite équipe. On me dit non, ça a été acté, partez tranquillement. Là, je dis qu'est-ce qui se passe ? On cherche des arguments à deux, trois balles, et je dis, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez me dire ? Regardez-moi dans les yeux, parce que je connais un petit peu le comportement. Je suis une fille de communication, donc je sais comment, quand on va annoncer de mauvaises nouvelles, parfois on essaie de déstabiliser les personnes. J'ai dit, on met fin à votre décès. Les arguments ne sont pas justifiés. Je dis, c'est dommage. Et on me sort comme ça aussi. Je pense qu'on aurait pu vous embaucher au bout des 4 mois, ce qui, donc, contractuellement, dans cette société, n'était pas valable véritablement. On m'avait dit, ça se passe comme ça chez nous, c'est 4 mois renouvelables une fois.
Est-ce que la loi du travail, en tout cas, la loi qui entoure votre mission, une période d'essai de 4 mois, ça existe ou est-ce qu'ils auraient dû vous faire une période d'essai d'un mois? Parce que moi, j'ai toujours entendu parler de d'un mois comme période d'essai. Est-ce que c'est légal?
Ça peut être légal quand on est statut cadre et en fonction de la convention collective.
D'accord.
Donc cette société, c'est ça aussi que je me suis renseignée, c'est la convention Syntec. Vous savez, tout ce qui est un petit peu conseil, ingénierie, etc. Donc il y a des petites subtilités. Normalement, c'est en majeure partie du temps, je n'ai jamais vu ça dans toute ma carrière, ça peut être 3 mois renouvelables une fois ou 4 mois, et au bout des 4 mois, on valide votre période d'essai en fonction du statut aussi. Voilà.
D'accord.
Donc, Et on a argumenté, et j'ai dit vraiment une ambiance. On essayait déjà de me déstabiliser, et petite chose, voilà, c'est ça que j'ai oublié le plus important. Je suis rentrée mardi dernier, 9h30. J'arrive à mon bureau, j'ai un bureau seul, et ben, j'avais plus de chaise. Pas de chaise à mon bureau. On est quand même une petite équipe, et il a fallu que je recherche cette chaise que je n'ai jamais retrouvée. Je me suis dit, oh, est-ce que c'est un présage ? Je suis déjà partie un peu l'esprit pas trop tranquille en vacances. Je sens, vu les petits événements et les incidents que j'avais avec les ingénieurs commerciaux qui se comportaient un peu comme des machos. J'avais quand même signalé ce comportement gentiment, mais fermement, parce que j'ai un caractère assez bien trempé et qu'à 54 ans, je me laisse plus faire. Bousculer, et... oui. C'est normal parce que je pense qu'on doit travailler dans le respect. Ce que j'explique aussi, c'est que quand on connaît peu, quand j'étais là depuis peu de temps, les personnes, on n'est pas des copains. Même des parfois au bout de plusieurs années au sein d'une même équipe de travail, on peut instaurer effectivement de la complicité. Mais quand on ne connaît pas, on ne se permet pas des comportements... machiste, j'irai entre guillemets sexiste certainement parfois, puisqu'ils l'ont eu aussi avec ma responsable qu'on a gentiment remerciée au bout de 4 ans de bons et loyaux services, parce qu'elle aussi, qui faisait les RH, ne se laissait pas faire par cette minorité d'hommes un peu turbulents, enfin je ne sais pas si je veux dire turbulents, mais qui avaient des comportements de temps en temps mal à propos.
Oui, je vois qu'il vous demandait de décommander un resto, c'est ça, alors que vous ne travaillez pas pour eux ?
Oui, exactement, tout à fait, oui, ils m'ont demandé, j'étais au téléphone et je n'étais pas obligée de travailler directement pour eux, moi j'étais plutôt entre guillemets, à chapeauter, à rentrer à mon bureau, j'arrive pas à... Le restaurant ne répond pas, annule le restaurant, c'était des ordres. Je dis déjà, je ne dis rien. Et eux me tutoyant, je tutoie les personnes qui me tutoient. J'ai du mal un peu, mais c'est l'ambiance qui veut ça dans les petites équipes. J'ai dit, je peux dire le prénom ou pas ?
Bien sûr.
J'ai Étienne. Donc, Étienne, c'est pas la première fois que tu me parles autrement. Non, mais de toute façon, tu dois le faire. Déjà, c'était une personne qui était aussi en période d'essai, ingénieur commercial, qui se permettait de se prendre parfois pour la RH et un comportement à dire « Oh, bah, écoute, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » J'ai dit « Je connais bien mon métier, tu n'es pas mon supérieur hiérarchique et tu dois te plier. Je dois, si je te rends service, c'est parce que je le veux bien et parce que en surcroît d'activité, c'est mon rôle de donner, en tant qu'exécutive assistante ou office manager, un coup de main aux équipes. Mais ce n'est pas dans ma priorité des tâches. Voilà. Donc, ce que j'ai mon profil de poste et voilà, mais des ordres et de rentrer pendant que j'étais par exemple absente ou en train de faire une mission extérieure, puisque j'étais amenée à me déplacer aussi pour organiser bientôt leur séminaire et trouver le lieu pour recevoir 70 personnes qui viennent au niveau international. Je paierai le lieu parce que ça va bientôt, ce sera facile d'aller se rendre compte de l'événement. Les personnes sont rentrées dans mon bureau, fouillées dans mon bureau, dans mon placard, pour prendre des affaires sans me demander la permission, alors que c'est moi qui... Donc il y a eu déjà des prémices. Je mettais un mouchoir parce que j'étais en période d'essai. Je me dis vraiment, c'est une ambiance parfois, c'est peut-être parce que c'est une petite équipe, une ambiance un peu, je ne sais pas si on peut employer le terme délétère ou un peu déstabilisante.
Oui.
Il y a une jeune fille qui s'est fait embaucher récemment, assistante achat, qu'on a voulu remercier, puis finalement qu'on a gardé en lui proposant une autre orientation dans son poste. Enfin, déjà, avant pas que je parte en vacances, j'étais... j'avais hâte de partir pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. Mmh. Voilà.
Qui était votre supérieur hiérarchique dans tout ça? Parce que...
Son prénom est Rebecca, une Australienne, juriste de formation, oui. Qui était là pour fédérer cette filiale française qui n'a que 4 ans d'existence. La maison mère étant étrangère, on n'avait pas, si vous voulez, de structure comme aussi importante que ce qu'on a quand on est dans une
grosse
filiale
boîte.
Grosse boîte française. Mmh. Voilà.
C'était tout de même elle qui commandait, non ?
Exactement, tout à fait.
Elle
m'a mise en garde, à une femme, absolument. Et elle m'avait mis en garde contre ce. Déjà, elle avait observé ce monde un peu de. Entre guillemets, cette ambiance de macho,
oui.
Avec des présidents un peu durs de par la mentalité et parfois déstabilisants. Et c'est vrai qu'elle avait quand même les reins solides. Je pense que c'est aussi le côté comment étranger. Elle était carrée et moi je l'aidais beaucoup, parce que je suis parfaitement bilingue, à faire par exemple des courriers. Et j'ai monté par exemple une succursale en Angola.
Mais elle ne vous a pas défendu dans tout ça ?
Si, elle m'a mise en garde, mais elle s'est fait remercier juste avant.
Ah, elle a été remerciée juste
remerciée,
avant. D'accord.
Voilà, au mois de juillet. Donc je me retrouve seule à bord, et à ce jour, ils n'ont pas de ressources humaines.
Est-ce que vous n'avez pas fait les frais, justement, de l'éviction de cette supérieure, qui semble être là pour lancer, en tout cas... mettre sur pied une structure plus solide, visiblement. Hein,
c'est ce que je pense aussi.
Vous êtes partie, comme on dit, un peu avec l'eau du bain, quoi, j'ai l'impression.
J'ai l'impression aussi, et je ne suis pas, si vous voulez, la seule dans ce cas-là. J'ai l'impression qu'on... Enfin, d'autres personnes qui veulent quitter le navire parce que l'ambiance n'est pas bonne, par exemple, qui sont plutôt... des managers de projets, si vous voulez, qui développent et qui ressentent une ambiance, ils gardent en fait, entre guillemets, des éléments, vous savez, un peu, comme je vous dis, ces hommes, et puis dont aussi une autre femme, un peu perturbateurs, qui sont difficiles.
Bon, alors, on a bien compris que vous étiez dans une ambiance assez délétère. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez été donc remercié. D'abord,
oui,
est-ce qu'ils en avaient le droit total de se séparer de vous ? Et est-ce que les conditions dans lesquelles vous avez été remercié sont-elles attaquables devant les prud'hommes, par exemple ? Parce que vous pouvez être dans une période d'essai, mais au bout de plus de 4 mois, hein, parce que si...
Ça fait 6 mois, là.
6 mois, au bout de 6 mois, si vous voulez, la période d'essai, elle est très très longue, là. Même si on est dans une convention de cadre, pardonnez-moi, je trouve que c'est un peu dur, au bout de 6 mois.
Oui, parce que... Exactement.
Donc,
en intérim.
Vous vous êtes renseigné un petit peu?
Alors, je me suis renseignée, et surtout, j'ai eu la chance que ma patronne, Rebecca... me rappelle et me dit Stéphanie, il faudrait que tu prennes un avocat parce qu'elle l'a fait hein, quand elle s'est fait remercier, bien entendu, et elle m'a dit tu partiras avec un gros chèque. Donc je me dis bon, je n'ai pas un salaire de tout en étant cadre, vous savez il y a des cadres qui gagnent, je ne gagne pas spécialement, je n'ai pas un gros salaire,
beaucoup.
Je me dis est-ce que ça vaut le coup de partir en vendetta en tant que cadre, en tant que après 6 mois, je vais me renseigner justement
demain. Moi je vais vous dire, je vous conseille quand même de le faire.
J'ai été anxieuse. Je suis quelqu'un quand même qui est les reins solides. Pour éviter, parce que du coup, je me suis sentie pas très bien lors de la discussion, les arguments n'étaient pas fondés auprès du nouveau managing director. J'ai dit que je me sentais pas bien parce que il avait en fait des attitudes un peu de copinage. Et en me disant, bon, Stéphanie, vous continuerez, vous ne viendrez que 2 jours par semaine et le reste du temps, vous chercherez du travail. Enfin, on m'évinçait comme par la petite porte.
Ouais, il a essayé de faire copain-copain.
Copain et me caresser le dos. J'ai failli lui en foutre une. Je me suis dit, s'ils veulent faire les grands copains par derrière, je sens que ça va partir en vrille et qu'on va me pousser à avoir un geste malheureux.
Oui, enfin, vous là, il faisait pas les grands copains par derrière, pardonnez-moi, il le faisait plutôt par devant.
Oui, mais c'était gros comme une maison et ça m'a hérissé le poil et j'avais vraiment envie de lui en foutre une, quoi. Alors j'ai arrêté de foutre de...
Oui, ça c'est profondément déconseillé.
Effectivement. Non. Mais je pense, par contre, je vais quand même téléphoner pour l'instant.
Vous êtes toujours en arrêt, là ?
Ils ne vous ont pas licencié encore ? Non, pas encore.
D'accord, bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça vous permet d'œuvrer un peu.
Oui, voilà, parce qu'ils voulaient que je signe quelque chose et de l'antidater. En fait, la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai réfléchi, j'ai fait un peu la PUTE. Il m'a dit, je vous remets en main propre, vous partirez. Ils sont trompés sur mon titre, ils ont mis assistante manager, remise en main propre le 23. Et s'il vous plaît, vous l'antidatez de demain. Comme ça vous oblige, vous n'êtes pas obligé de revenir et ne pas prendre l'ordinateur. Enfin, un truc rocambolesque. Et c'est là que j'ai dit, je comprends rien, je comprends pas, je signerai demain. Enfin, je me sens pas très bien et je suis allée tout de suite voir mon médecin.
Oui.
Qui m'a mise en arrêt, donc j'étais anxieuse et j'ai dit là, on me force, on me prend un peu à froid et j'ai appelé tout de suite, donc j'ai parlementé vendredi dernier au téléphone. Je me suis énervée après avec le nouveau managing director. Je lui ai raccroché au nez parce que j'ai dit c'est pas des manières. Enfin, je lui ai dit ma manière de penser et j'ai dit qu'il fallait refaire s'il avait quelque chose à pour me faire un écrit et attendre que je sois là et que je ne pouvais pas être en arrêt maladie et signer. Enfin, m'avoir considéré comme une gamine, quoi, en fait.
Oui, oui. Non, mais là, clairement. Maintenant, vous êtes en position de négocier, en fait.
D'accord.
Je pense qu'il faut que vous la jouiez fine, hein, parce qu'au bout de 6 mois, bon, ils décident de séparer de vous, et c'est leur décision, si vous voulez. Bon, soit, mais il faut qu'ils assument les conséquences de ça. On ne peut pas disposer des gens comme ça. On ne peut pas.
C'est ça que je...
Voilà, on ne peut pas disposer de quelqu'un tout à coup, parce que on a des manières de macho, on aime bien être entre mecs, hein, puis c'est vite fait de dire bon, les gonzesses, ça nous emmerde, là, on va se retrouver un petit peu entre nous, on va manager ça, et puis bah, on se sépare des éléments qui ont manifesté, comme vous l'avez fait, un peu de résistance, et puis un certain mécontentement par rapport aux familiarités. Tout ce que vous m'avez raconté avant, hein, dans la première partie de votre témoignage. Et si vous voulez, aujourd'hui comme hier, hein, d'accord, mais encore plus aujourd'hui, on ne peut pas se comporter n'importe comment dans le domaine du travail. On ne peut pas. Et puis, cela doit être un principe pour vous, hein, ma chère Stéphanie, de comprendre qu'on ne peut pas disposer de qui que ce soit comme ça.
Vous avez travaillé,
vous avez rendu... votre travail, vous avez travaillé, vous avez assuré votre mission, vous avez fait tout ce visiblement, hein, tout ce qui était en votre pouvoir pour bien faire votre boulot. Ils organisent une convention ou un meeting à l'international. Vous partez en vacances, on ne vous demande pas de rester, puis au retour, on vous reproche d'être parti. Si vous voulez, tout ça est un peu enfantin. Facile.
Et c'est exactement ça. Voilà.
Bah oui,
c'est
alors,
pour ça que ça me hors d'envoi.
Alors, avocat, dossier, vous montez un dossier avec votre avocat, et puis l'avocat, il faut que vous preniez un avocat qui est dans le droit du travail, et dans un premier temps, il va négocier avec eux. Si vous voulez, avec eux, maintenant, c'est mort. C'est fini.
C'est mort. Voilà, c'est un peu comme une histoire d'amour, comme un divorce.
Vous ne pourrez pas y retourner, vous voyez.
On vous a maltraité,
vous n'allez pas retourner dans un endroit où vous savez que ça recommencera. Hein. Vous chassez le naturel, comme on dit, et il revient au galop. Mais ces gens-là, en fait, n'ont pas compris que vous êtes une personne qu'on doit respecter, vous êtes une salariée qu'on doit respecter et qu'on ne peut pas disposer de qui que ce soit, ouvrier ou cadre. Il y a une convention des cadres, mais cela m'étonnerait qu'on puisse disposer même de cadres comme on l'a fait avec vous. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment que vous vous défendiez, mais avec un professionnel. Encore une fois,
alors,
Encore une fois, je vous le dis, c'est important pour vous que ce soit un professionnel qui prenne les choses en main, quelqu'un qui ait l'habitude, parce que vous allez lui répéter ce que vous m'avez raconté ce soir, et après, ça sera dans ses mains. Vous voyez ?
Oui, voilà, c'est ça.
Et il va vous conseiller comme il faut. Et elle a eu raison, Rebecca, votre supérieure, parce qu'on a dû se séparer d'elle de la même manière, en se disant, bon, mais c'est bon, on n'en a plus besoin, ou alors, voilà, pour moult raisons, je ne sais pas pourquoi ils se sont séparés d'elle, mais en tout cas, vous voyez, on ne peut pas faire ça.
En fait, ce qui s'est passé, juste pour la parenthèse, elle a eu une plainte qui est montée dans la maison mère autrichienne, contre elle, une plainte inconnue, enfin quelqu'un qui
anonyme.
A envoyé une lettre à la RH internationale.
Oui, c'est la grande...
Donc il y a une enquête de fait. En fait, c'était de la déstabilisation, tout simplement. Ouais. Donc voilà, il y a une enquête. Et
c'est très à la mode. Bien... C'est très à la mode, l'anonymat aujourd'hui. Bah, avec Internet, il y a beaucoup de personnes qui ont pris de mauvaises habitudes, vous voyez.
Mais c'est moche maintenant, on arrive vraiment dans une société de...
Oui, mais regardez, au final, ça marche.
Regardez le résultat, ça marche, voilà. Et là, 54 ans, être encore obligé de se réfuser, de rechercher du travail. J'ai un CV de ministre, j'ai beaucoup d'expérience, mais ça devient épuisant. Parce que je sais que les CDI, c'est pas pour la vie, mais au moins, les autres fois, quand je suis partie au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, c'était des fois en rupture conventionnelle, d'un commun accord, ça se passait bien, vous voyez. Et là, c'est la première... Enfin, ça faisait longtemps, je pense, que j'ai essayé de rechercher dans ma mémoire que ça s'est peut-être passé au début de mes premiers jobs, peut-être parfois en entreprise où on essayait d'intimider quand on voulait plus d'une petite jeune, ben on essayait de lui trouver une excuse. Mais maintenant le droit a évolué, vous avez raison. J'hésitais, je me disais que j'avais pas assez de recul nécessaire,
mais n'hésitez pas.
Oui, effectivement.
Non, il faut pas hésiter vraiment.
Parce que je me sens affectée, hein. Donc
c'est normal. Enfin, quelqu'un qui travaille, qui fait son boulot sérieusement, qui part en vacances et qui au retour se fait remercier. Pour une raison qui n'existe pas, c'est normal que ça vous affecte et que ça vous déstabilise. Et ça, vous savez, je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est la culture de l'anonymat, on dénonce, comme c'est la culture de... Allez, on annonce un gros truc, un gros mensonge, et puis finalement, une fois qu'on a dit le gros mensonge, ben, comme on dit en France, il n'y a pas de fumée sans feu. Et dès que vous avez, finalement... fait une lettre anonyme ou dénoncer un truc anonymement, voyez, ça crée un malaise, ça crée la suspicion, et puis il y a un engrenage qui peut se mettre en route, malheureusement. Et il y a bon nombre de personnes qui ont compris qu'aujourd'hui, plus c'est gros, plus ça passe.
D'accord.
On a l'exemple, hein.
On
a l'exemple dans cette société tous les jours, de gens qui sont victimes de ceci, de cela. Alors, bien évidemment, il y a des victimes. Vu ce que vous nous racontez ce soir, vous voyez, vous êtes victime.
Je suis victime. Et puis, je suis affectée. Bon, j'ai eu le temps de digérer. Ça va un peu mieux aujourd'hui, entre guillemets, parce que j'ai parlé un peu autour de moi. Et justement, je réfléchissais. J'ai passé même 2 entretiens au téléphone dans des sociétés, parce que je réponds à des annonces en 48 heures à nouveau. Enfin, ça m'a reboosté. Mais en même temps, faut pas que... je me dis, je ne veux pas partir fâchée. Et heureusement, ma référence, c'est Rebecca. L'ARH, donc même si ça se passe mal avec l'entreprise, on parlera en bien de moi. Je ne peux pas raconter mon histoire lors du prochain, si je dois rebondir d'ici quelques mois. Ou alors ça fera peut-être cache, mais en tout cas, ça ne se passe pas bien le départ, hein, la séparation.
Oui, mais bon, prochaine embauche, prochain entretien, vous passez à autre chose. Vous voyez, il faut encore une fois, quand on vous parlez de vendetta tout à l'heure, et c'est vrai que se lancer dans une procédure, il faut la lancer, mais ensuite la laisser dans les mains de celui dont c'est le métier. Ça aura une double vertu. La première, c'est que quelqu'un de professionnel s'occupera de vous. Hein.
Oui.
Et la deuxième, c'est que vous aurez le champ libre pour vous, pour retrouver du boulot et sans vous préoccuper de tout ça. Vous voyez ?
Bah oui, voilà, c'est ça.
Parce que quand on est dans la colère, vous voyez, dans ce sentiment d'avoir été roulé, d'avoir été blessé, d'avoir été déconsidéré, c'est pas bon. Donc, il faut vite s'en extirper. Et donc, voilà, je vous conseille vraiment, Stéphanie, de vraiment au plus vite
bah, merci,
de
Olivier,
mettre ça
j'ai,
dans les mains d'un avocat.
J'ai essayé de contacter un ancien ami, mais il ne m'a pas répondu. Donc, autant que je sais prendre.
Bah, vous avez bien fait d'appeler.
Voilà, merci beaucoup, okay. Olivier.
On vous embrasse, Stéphanie.
Je vous embrasse, Olivier, et puis continuez comme ça. En tout cas, c'est grâce à vous aussi que je garde le moral en vous écoutant le soir et les témoignages
et bah, tant
des
mieux.
Auditeurs.
Tant mieux, nous sommes là pour ça.
Au revoir.
Bon courage à vous, Stéphanie, au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et oui, vous composez le 3921 et peut-être aurai-je le plaisir de vous parler tout à l'heure. Pour le moment, à 23h40 pile, nous accueillons Amidou au 3921. Bonsoir Amidou.
Bonsoir Olivier, bonsoir.
Bonsoir. Quel âge avez-vous Amidou et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 36 ans, j'habite à Saint-Étienne dans le 42.
Saint-Étienne dans le 42. Pas loin de Lyon, hein, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qui vous amène, Amidou ? Dites-moi.
Déjà, merci au lieu de me recevoir ce soir.
Je vous en prie.
Et voilà, je voulais parler un petit peu de ma situation. Et aujourd'hui, je suis démuni un petit peu.
Oui.
Je suis très, très fatigué, en fait. Voilà, en 2019, j'ai eu une endocardite infectieuse, une infection du cœur.
Oui.
Je suis resté 7 mois dans le coma. J'ai fait presque 1 an de réanimation.
7 mois dans le coma, mon Dieu.
Oui, oui, 7 mois dans le coma. De la rééducation, de la réanimation en soins intensifs. Et...
C'est arrivé comment, ça, Amidou ? C'est une maladie, en fait ?
Non, pas. En fait, j'avais en fait un PICC line. C'est une chambre, un cathéter central. Au niveau des veines, et en fait, il me soignait pour une gastroparésie, donc une paralysie d'estomac, et en fait, ce PICC line s'est infecté.
D'accord.
Donc, et ben, en fait, je suis resté très longtemps à l'hôpital, on m'a soigné, et en fait, ça m'a attaqué les jambes, la moelle épinière.
Ok.
Donc, je suis devenu handicapé. Voilà, j'ai un handicap des jambes. Et je suis démuni, excusez-moi.
Je vous en prie.
Voilà, je suis vraiment démuni. Et voilà, donc ce soir, je vous appelle, voilà, parce que, en fait, eh ben, je ne peux plus. Parce qu'en fait, en même temps, j'ai attrapé un cancer du côlon. Entre-temps.
Vous avez attrapé un cancer du côlon ?
Oui, j'ai un cancer du côlon aussi. J'ai 4 okay. enfants.
Oui.
J'ai 4 enfants. Et en fait, je ne peux plus me procurer de protection et d'alimentation pour mes enfants parce qu'entre-temps, j'ai perdu mon travail.
Que faisiez-vous,
Amidou ? J'étais agent de sécurité.
Oui.
Voilà. Et j'ai perdu mon travail. Les dettes se sont accumulées.
Mmh.
Des dettes de loyer ben, exorbitantes. J'ai tout perdu. Et donc, mon épouse est restée à mes côtés. Elle m'a beaucoup soutenu. C'est elle qui me changeait mes protections, mes couches, tout ça. C'était vraiment difficile, même pour mes enfants.
Mais oui, vous m'étonnez.
Et aujourd'hui, bah, je ne peux plus me procurer des protections. Je fais appel à des associations, mais comme les Restos du Cœur, on me dit qu'il y a des distributions dans 15 jours, mais ils ne font pas de protection pour moi, donc c'est vraiment difficile. Je ne peux même pas me concentrer sur ma maladie, je me concentre essentiellement bah, à trouver de l'alimentation pour mes enfants.
Oui.
C'est tout.
Oui.
C'est tout. Et donc si j'ai fait appel à vous ce soir, Olivier, c'est que j'ai longtemps suivi vos émissions et vraiment vous m'êtes tant touché et je vous appelle ce soir pour raconter un petit peu mon histoire.
Oui, c'est vraiment la maladie qui vous est tombée dessus depuis 2 ans finalement, hein, c'est ça ?
Tout à fait.
Quand vous vous êtes réveillé du coma, 7 mois de coma, comment vous êtes réveillé ? Est-ce que vous avez réalisé ce qui vous était arrivé ?
Non,
comment on se réveille
très,
de 7
très,
mois ?
Ça a été très, 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 très difficile.
Ben oui.
Très, très difficile. Il a fallu apprendre à manger. C'est mon épouse qui a dû s'occuper de moi. Ça a été vraiment très, 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 très compliqué. C'était vraiment. J'ai perdu, en fait, vous savez, l'endocarde infectieuse, ça a abîmé la moelle épinière.
Oui.
Donc, en fait, tous les nerfs de la moelle épinière, ils sont un petit peu lésés, ils sont abîmés. Donc, ça a été très, très compliqué. Donc, aujourd'hui, je marche avec des béquilles, j'utilise mon fauteuil roulant. Voilà, c'est très, très compliqué.
Vous habitez dans une résidence ou dans un appartement,
Non,
non?
alors voilà. On a fait appel aussi aux HLM de la Loire parce que j'habite au troisième étage sur l'ascenseur, donc je suis isolé du monde extérieur.
Oui,
À
vous ne pouvez
part,
plus sortir.
tout à fait, à part mes rendez-vous chez le kiné, on vient me chercher avec une chaise, ben je suis confiné à la maison. Voilà, donc aujourd'hui, bah, si je suis appelé à vous, c'est pour avoir des conseils, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'on a fait des demandes aussi auprès de la MDPH pour avoir la PCH, tout ça, mais ça peut mettre jusqu'à 6 mois d'attente. Donc entre-temps, bah, au lieu de me concentrer sur ma maladie, bah, je me concentre à trouver des solutions pour mes enfants, à savoir comment je vais régler mes loyers. Parce que vous savez, quand vous pouvez plus payer vos loyers, la CAF vous coupe les APL.
Oui.
Voilà.
La CAF
Donc,
vous coûte les APL.
tout à fait, et vous coupez les APL, la CAF, quand vous ne pouvez plus payer les
Mais
loyers.
même si vous êtes dans une situation de grande maladie comme ça?
Bien sûr, mais en fait, ça les. Comment dirais-je? Je bête à qui s'en foutent, mais voilà, en
C'est le
fait,
système, à mon avis, qui est comme
tout à
ça.
fait, c'est le
Ouais.
système, tout à fait. Et du coup, bon, j'ai une énorme dette de loyer. Le propriétaire, c'est un bailleur privé.
Oui.
Donc, impossible de s'arranger avec lui.
Vous
Donc, c'est
payez
très,
combien
très.
de loyer à Mideo?
750 euros par mois
D'accord. Et là,
pour un T4.
vous avez combien de loyer de retard?
J'ai eu à peu près 5 800 euros.
5 800 euros. Ça
Tout à fait.
fait huit
Et.
mois de retard, c'est ça à peu près?
Tout à fait, un peu plus, parce qu'il y a les frais d'huissier, tout ça,
Oui.
qui sont intérieurs. Mais voilà, j'appelle pas pour, voilà, j'appelle pour vraiment avoir des conseils, Olivier, comment je pourrais faire pour, parce que vraiment, Olivier, au lieu de me concentrer sur cette maladie, je me concentre vraiment pour mes enfants. J'ai 4 petits bouts, la dernière à 7 mois. Et voilà, quoi. Vous savez, essayer de trouver une boîte de lait. Vous savez, aujourd'hui, ma femme, elle a été vendre à l'aspirateur, vous savez, comme les choses chez Mondial Cash, tout ça, vous savez, pour acheter une boîte de lait à ma fille. Donc, ça a été vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, vous voyez?
Oui, je me doute. Qu'est-ce que
Oui.
vous imaginez comme solution à Mido aujourd'hui? Qu'est-ce
Honnêtement, honnêtement, je ne sais pas.
Oui,
Olivier, je ne sais
vous ne
pas
savez
du
pas.
tout.
Oui.
J'ai plus de solution. Je ne dors plus la nuit. Je pense qu'à ça. Et j'ai arrêté même mes séances de chimiothérapie. Je ne vais pas à l'hôpital. Parce que je dois trouver des. Pour moi, je suis le père de famille. Donc c'est à moi de trouver des solutions pour ma famille.
Et
Voilà.
vous n'avez pas d'amis, de famille qui vous...
Non, j'ai ma maman qui est décédée en 2020, la maladie de Parkinson, une PSP, une Parkinson supranucléaire. Voilà, c'était ma seule famille, c'était la personne la plus, comment dire, celle la plus proche que
Oui, oui.
j'avais. Et elle est partie elle avait 64 ans. Donc elle était sur Lyon, elle est partie à 64 ans. Et puis mon épouse a de la famille, mais vous savez, je vous ai pas tout raconté en fait, mon épouse est d'origine algérienne. Et moi, ma maman était indienne et mon papa sénégalais. Et ils n'ont jamais accepté notre mariage mixte. Donc, ils ne se parlent plus. Du coup, on est seuls.
Votre femme est indienne, c'est ça?
Non, est algérienne.
Algérienne,
Est
d'accord.
algérienne, voilà. Et ma maman était indienne et mon papa est sénégalais. Et en
D'accord.
fait, ils ont jamais accepté sa famille, notre
Oui,
union au
oui,
niveau
oui.
de la mixité. Et donc, eh ben, en fait, on est seul, on est seul. Et moi, avec un problème de santé, donc je ne sors pas, je ne côtoie pas de personne, donc je suis vraiment isolé.
Vos anciens collègues de la boîte de sécurité, personne ne vous aide?
Non, personne. Vous savez, quand vous êtes dans la maladie, Olivier, au début, vous avez tout le monde, mais après, vous n'avez plus personne.
Oui.
J'ai eu très peu de personnes qui sont venues me voir à l'hôpital. J'avais vraiment que mon épouse, qui à 30 ans s'est occupée de moi. Elle ne m'a pas lâché, elle s'est vraiment occupée de moi. Elle avait les enfants, mais elle me changeait mes protections, elle faisait tout pour moi. Jusqu'à maintenant, elle est encore avec moi. Et je remercie parce qu'elle aurait pu partir du domicile, mais elle a préféré garder notre amour qui...
C'est magnifique, c'est magnifique. Vous voyez, Amidou, Fatih nous laisse un message au 3921.
Oui.
On va vous laisser hors antenne son téléphone, car oui. Fatih s'occupe d'un collectif cuisine solidaire, et elle va pouvoir vous donner déjà de l'alimentation pour la famille. Donc ça, on va vous communiquer son numéro. Il y a aussi un auditeur ou une auditrice qui n'a pas signé le SMS qui nous a envoyé, mais qui vous conseille de faire une demande auprès de la MDPH par rapport à votre handicap récent. Hein. Et, avez-vous demandé à rencontrer une assistante sociale pour faire accélérer les choses?
Tout à fait, mais alors ce qu'ils m'ont répondu, c'est qu'on ne va pas au-dessus du système. Ils nous disent qu'il faut attendre et donc,
on ne va pas au-dessus du système.
Au-dessus du système, tout à fait. Donc ma demande, en fait, il faut que je patiente comme tout le monde. Et on a le RSA et donc suite à comme j'avais des dettes d'eau tout ça, le Trésor public nous ont bloqué le compte. Donc du coup, on ne pouvait plus retirer. Vous rendez compte? Olivier, on leur a expliqué qu'on a besoin pour acheter des protections. Je suis obligé de mettre des sacs poubelles à la place des protections. On a expliqué ça aux assistantes sociales, mais ils ne comprennent pas.
Ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre, ce n'est pas possible.
Avec
le cancer que vous avez qui est très grave.
Exactement.
Nécessite des protections. Enfin, moi
Tout à fait, j'ai fait une demande de prestation de compensation du handicap, une PCH, et donc ils m'ont dit que ça peut mettre jusqu'à 6 mois. Mais en ce moment, je leur ai dit, mais comment je fais? Eh bien, dirigez-vous vers les associations. Et j'appelle les associations, ah ben monsieur, on n'a pas de protection, comme le Secours catholique, on n'a que des choses pour femmes, mais à Saint-Étienne, à la Loire, il y a très peu de choses. Donc,
c'est pourtant une grande ville, Saint-Étienne.
Tout à fait, mais j'appelle tous les jours, du matin au soir, j'appelle. Je sollicite plein d'associations, mais voilà. Et aujourd'hui, vraiment, j'en ai marre de me battre. Je suis fatigué.
Bien sûr, je comprends. En tout cas, vous qui nous écoutez sur Saint-Étienne, si vous travaillez dans une association comme Fatih, nous parle ce soir du collectif Cuisine Solidaire. Si vous voulez aider Amidou et sa famille, bien évidemment, vous nous appelez au 3921 et nous vous mettrons en rapport. Vous voyez, il y a Véronique qui nous donne son numéro et qui souhaite faire un don pour votre famille. Donc, on va vous mettre aussi en rapport avec elle. Avec Véronique, merci à elle.
Merci beaucoup. En tout cas, je remercie tout le monde et vous savez...
Mamie Tam Tam, qui revient, et j'en suis ravi, Mamie Tam Tam, parce que c'est le premier SMS que vous nous envoyez depuis le début de la saison et je pensais bien que vous étiez parti et que vous ne nous écoutiez plus. Et donc, ça me fait très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Mamie Tam Tam, au 739-21, vous conseille, Amidou, de faire un dossier de surendettement. Oui. Est-ce que ça, vous vous êtes lancé dans tout
ça? On a fait la demande pour faire un dossier de surendettement. Mais c'est très, très compliqué parce qu'il y a aussi ce problème de loyer. En fait, le problème de loyer, c'est que le propriétaire ne veut pas. C'est soit il veut récupérer son bien... soit ils ont récupéré son perçu. Vous savez, Olivier, il y a très peu de temps, les huissiers sont venus à la maison.
Oui.
C'était un jour, c'était un mercredi à vers 8h du matin. Ils sont venus avec deux témoins et les huissiers à la maison. Il y a mes enfants, ils ont dit, ma femme leur a dit, mais ils dorment mes enfants. Il leur a dit oui, mais on est obligé d'allumer la lumière. Et ben, ils ont noté les très peu de choses qu'il y avait à la maison. Et ils nous ont dit, ils ont fait une saisie de biens de vente. Voilà, donc on n'a plus le droit de toucher les meubles qu'il y a à la maison. Ça leur appartient en quelque sorte.
C'est horrible.
Voilà, et donc...
Il y a une auditrice qui vient de nous appeler, Amidou,
oui.
Et qui vous demande si vous avez attrapé ces infections, si vous connaissez l'origine des infections que vous avez eues au cœur à un moment.
Oui, l'origine que j'ai eue au cœur, en fait, c'est j'avais, comme je disais, un PICC line, c'est un cathéter central,
oui.
qui est placé, c'est comme une tombe implantable. Et en fait, ce cathéter s'est infecté. On ne connaît pas l'origine.
D'accord.
Et en fait, j'étais dans un état critique parce qu'au début, comme ils ne savent pas d'où est l'origine de, comment dirais-je, de l'infection, ils vous éradiquent tout. Donc, ils m'ont enlevé même les dents parce que j'avais 2-3 dents qui étaient abîmées, mais ils ont préféré tout enlever. Pour voir où était l'infection.
Oui.
Voilà.
D'accord. Donc, il faut que tout de même que vous redemandiez l'origine de ces infections, parce que oui. L'auditrice qui nous a appelé nous dit que si l'origine de ces infections sont dues à l'hôpital, par exemple, vous pouvez demander, en tout cas, vous pouvez demander l'origine de ces infections. C'est très important qu'on la trouve, hein, l'origine.
Oui. Oui.
Parce que cela vous permettrait de demander aussi plus d'aide par rapport d'aide médicale déjà. Est-ce que vous êtes bien suivi par l'hôpital aujourd'hui? Est-ce que vu que vous ne pouvez plus sortir de chez vous, vous me dites
honnêtement, Olivier, non. Bah, depuis une semaine, je ne vais plus à l'ICL, à la cancérologie de la Loire. Je n'y vais plus parce que en fait, je suis concentré, comme je vous dis, sur les besoins de ma famille, de mes enfants. Vous vous rendez compte, Olivier, il n'y a pas très longtemps, ma fille me dit, mais papa, ma maîtresse, elle me dit, mais elle s'appelle Shaina, ma fille, faut penser aux 20 euros, papa. Faut penser aux 20 euros. Mais vous vous rendez compte, même 20 euros, je ne peux pas leur donner pour vous savez, quand on rentre à l'école, en début d'année, on vous demande une somme. Je n'ai pas pu les donner.
Bon, là, vous allez voir avec les différentes personnes dont on va vous communiquer le numéro de téléphone.
Oui.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour vous, Amidou?
Même du soutien. Du soutien. Parce que c'est très dur, même pour les enfants, c'est
bien évidemment. Alors sachez une chose, c'est que vous le savez, on peut pas vous mettre dehors comme ça, hein. Avec
oui,
quatre enfants, quel âge ont les enfants?
Alors ma grande, elle a 10 ans, le deuxième, il a 8 ans, le troisième, il a 3 ans, et la dernière, elle a 7 mois.
Ouais. Donc déjà avec des enfants aussi jeunes, sachez que on ne vous mettra pas dehors, on ne peut pas.
Et vous savez. Quand vous avez un propriétaire qui
vous
harcèle de messages,
oui.
C'est ça, et qui vient et qui n'arrête pas, c'est vraiment compliqué.
Bien évidemment, enfin, bien
vraiment
évidemment.
Compliqué. Et qui envoie les huissiers, et puis, vous savez, il me dit, en quelque sorte, je ne peux pas le dire non, il me dit, j'ai un crédit sur cette maison, je suis obligé de les payer, surtout que les APL ont coupé, la CAF ont coupé les APL.
Sachez que les APL, je me souviens avoir eu un témoignage qui allait dans ce sens, vos APL sont reversés aux propriétaires. Vous le savez, ça
En fait, tous les mois, ils sont reversés. Mais quand on ne paye plus je crois qu'ils ont une déclaration, ils m'avaient expliqué les propriétaires, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, on leur demande si les loyers sont bien à jour. Et s'ils ne sont pas à jour, on est coupé des APL. Les propriétaires, ils ne reçoivent plus les APL.
Ah, d'accord.
Donc, en fait, on est obligé de payer le loyer plein but.
Voilà. Une autre auditrice nous appelle au 3921 pour vous conseiller, par le biais de la mairie, de faire appel au CCAS pour de l'aide.
Je l'ai fait. Et alors... je l'ai fait. Alors, déjà, le CCAS, ils m'ont aidé une fois avec... j'avais eu 20 euros. Et ils m'ont dit... Bon, c'est déjà bien 20 euros. Ouais. Ils m'ont dit qu'on peut vous aider avec 20 euros. On ne pourra pas vous aider tous les mois, mais on peut vous aider pour un paquet de couches. Voilà ce qu'on m'a fait. C'est tout. C'est tout. Et après, redirigez-vous vers les associations. Et j'ai appelé les associations encore aujourd'hui... donc les Restos du Cœur pour leur dire, ils m'ont dit il faut attendre 15 jours pour avoir la première distribution de colis et puis on n'a presque rien, donc voilà, les dons sont moindres, voilà.
Bon, on va marquer une pause et le temps de cette pause, vous qui habitez la région de Saint-Étienne, mais même de Lyon, hein, vous qui nous écoutez à Lyon, j'aimerais vraiment que vous vous manifestiez pour cette famille, pour Amidou qui a 34 ans, hein, et
36 ans,
36 ans et qui après l'infection du cœur, à un cancer du côlon, et vous aurez, si vous avez écouté son témoignage, compris que la situation est plus que désespérée pour Amidou, bien évidemment pour soigner Amidou, mais aussi pour nourrir la famille. Vous restez avec moi, Amidou, et on va laisser passer l'info sur Europe 1 tout de suite. Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur la Libre Antenne. Si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, chers amis. Donc, vous le savez, vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7-39-21, suivi du mot « nuit », écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir, pour Amidou qui nous livre un témoignage glaçant d'une situation plus qu'alarmante de sa famille et puis de lui en tant que père de famille, bien évidemment, puisque Amidou souffre d'un cancer du côlon après avoir subi une grave infection du cœur. La vie, parfois, bascule, je vous le dis souvent sur cette antenne, elle bascule vite et malheureusement, on n'a pas prévu, on ne voit pas que tout à coup... on se retrouve sans rien, sans ressources, et c'est ce que vous vivez, Amidou, hein, depuis des mois maintenant.
C'est ça.
Alors, on a pas mal de témoignages. Je redonne votre ville de résidence, hein, Amidou, puisque plusieurs auditeurs et auditrices demandent. Vous habitez à Saint-Étienne. Et donc, cela veut dire que vous qui habitez cette région de Saint-Étienne, et puis aussi Lyon, puisqu'on est à une heure hein, de Lyon, puisque j'ai le souvenir, puisqu'il y a deux grands clubs de football, un à Saint-Étienne et un à Lyon, je me souviens que c'est pas du tout loin. Donc vous qui habitez cette région, si vous avez envie d'apporter votre aide à Amidou, bien évidemment, vous appelez Florian ou Julia, ici au 39-21, et nous ferons suivre, évidemment. Amidou, en fait, pour avoir PCH, AAH, il faut 6 mois, vous dit Christine. Ça vous parle ?
Je n'ai pas compris.
Pour avoir la PCH et l'AAH, il faut 6 mois, nous dit Christine.
Oui, c'est ça.
Et donc, vous avez entamé ces démarches depuis combien de temps ?
Eh bien, ça fait maintenant 2 mois, parce qu'après, je percevais mon salaire, donc 2 mois.
Un autre auditeur nous demande si votre femme peut-être peut aller voir votre pharmacie qui peut éventuellement vous donner...
Oh là là. Non, j'ai une dette à la pharmacie déjà.
Vous avez une dette à la pharmacie.
J'ai une dette. Ils m'ont déjà avancé le... Vous vous rendez compte, il y a aussi pas longtemps, la pharmacienne m'a dit, parce qu'elle venait frapper à la porte, et elle me disait maintenant, monsieur Amidou, il faut... Maintenant, règle votre dette. Je vais pris 2 boîtes de lait aussi. Ils m'ont dit maintenant qu'il faut payer votre dette, tout ça. Bah, je n'ai pas pu la payer. Voilà, je n'aime pas juste comme ça parce que je suis quelqu'un qui est droit. Donc,
bien sûr.
Et de voir des dettes comme ça, je n'y arrive pas. Voilà.
Mais vous êtes couvert par la sécurité sociale ou
Oui, tout à fait. Je suis couvert par la sécurité sociale, mais ils ne remboursent pas les protections.
Ah, on ne rembourse pas les protections ?
Non, les protections ne sont pas remboursées. Protection, il n'y a que la PCH qui rembourse la protection, mais c'est 6 mois maximum.
D'accord.
Voilà, donc quand j'appelle, on me dit qu'il faut patienter.
Et ce cancer du côlon, il est à quel stade là ?
Il est au stade 2.
Et il est stoppé un peu ou il évolue?
Ben, il évolue. Parce qu'il y a des métastases maintenant qui commencent à proliférer. Et comme moi, je ne me soigne pas du tout.
Mais pourquoi vous ne retournez pas faire la chimio?
Parce que... Olivier, je suis concentré sur mes enfants, en fait. C'est incroyable, mais je sais qu'on va me dire oui, mais vos enfants, ils ont besoin de vous, tout ça. Mais quand vous savez que vos enfants, ils n'ont pas mangé, Olivier, c'est...
Oui.
Vous pouvez pas... Je ne sais pas quoi vous dire. Je passe toute la journée, écoute-t-il, Olivier, toute la journée, du matin au soir, je passe des coups de fil de partout, dans les associations diverses, dans... Et à chaque fois, c'est... Que je rencontre des associations, oui, bah non, on est des enfants, on n'est pas les. Il y a beaucoup d'associations pour les enfants, mais pas beaucoup d'associations pour les adultes. Et donc, encore aujourd'hui, on m'a dit qu'on est des associations des petits princes, on m'a dit qu'on est des enfants, pas les adultes.
Bon, en tout cas, on va vous transmettre tout. Quelqu'un nous écrit, Saint-Étienne est une ville où il y a beaucoup d'associations solidaires, Amidou. Vous devriez être prise en charge en tant que malade, maladie chronique, et en plus avec des enfants bas âge. Nous allons vous soutenir en alimentation avec notre réseau solidaire. Ça, je pense que c'est Fatih qui n'a pas signé son SMS, mais je pense reconnaître sa manière d'écrire. Fatih qui... on va vous communiquer le numéro de téléphone de Fatih. Florian doit l'avoir et on va vous mettre en rapport. Déjà, je pense que Fatih, avec son association, peut vous soulager grandement. Et ça peut être un souci en moins. En tout cas, vous avez bien fait de nous appeler, Amidou. Hein,
merci beaucoup, Olivier. Merci vraiment.
Je vous en prie, on est là pour ça. On est là pour ça.
Voilà. Moi, je veux juste que mes enfants aient un toit. Et à manger, c'est tout ce que je veux.
Bien sûr. Mais ne vous oubliez pas. Hein. N'oubliez pas que vos enfants ont besoin de vous. Donc, il faut soigner. Il faut vous soigner. Il faut que vous me promettiez de recommencer à vous soigner dès demain, Amidou.
Oui, je vous promets.
Promis, hein.
Je peux juste que mes enfants aient tout ce qu'il leur faut. C'est tout
oui,
ce que
mais
je...
vos enfants, vous voyez, avec ce soir, vous avez bien fait de nous appeler. Fatih va vous aider. Véronique veut faire un don. Il y a plusieurs personnes qui appellent pour vous. Vous voyez, vous avez bien fait de nous appeler. Je dis souvent, les mains se tendent, mais pour peu qu'on provoque quelque chose parfois, un petit rien. Ce soir, vous avez appelé ici et vous avez bien fait, Amidou. Mais maintenant, il faut saisir ces mains-là, mais ne pas oublier que vos enfants, ils ont besoin de vous, hein, et que vous avez un sacré challenge à relever là, parce que ce cancer, vous savez que c'est pas rien, hein, vous en êtes le premier au courant, hein.
Tout à fait. D'accord. Olivier, je vous ai envoyé j'ai remercié aussi beaucoup Florian pour l'accueil qu'il m'a donné, mais il m'a écouté, il a été attentif, je le remercie énormément, et j'ai envoyé tous les documents aussi, il a tous les documents de ma situation, voilà.
D'accord. Un auditeur nous dit qu'il y a des protections moins chères sur Internet. Mais je vous rappelle, mon cher, en tout cas l'auteur de ce message, qu'Amidou n'a pas d'argent. Donc, il ne peut même pas acheter sur Internet, bien évidemment. Courage à vous et n'hésitez pas
merci
à nous donner des nouvelles. Vous restez en ligne. Florian va vous communiquer les numéros de téléphone. D'accord?
Merci beaucoup.
Merci Amidou. Au revoir. On accueille Françoise maintenant. Sur Europe 1,
bonjour, il est minuit 15.
Bonsoir, Françoise.
Alors moi, je vous appelle pour une raison moins grave quand même, mais grave par rapport au cas qui était avant. Donc moi, je suis artiste, chroniqueuse dans votre métier, très, très connue par rapport à une émission de radio dont je me tairai le nom, une radio dont je me tairai le nom. Je suis artiste et on se retrouve un couple de 60 ans, on va dire à la rue, puisque on est parti de Lille parce qu'on avait effectivement des appartements seulement qui étaient gérés par des marchands de sommeil.
Oui.
Et qui blanchissaient l'argent des loyers avec leur drogue. trafic de drogue. Donc moi, j'ai, étant donné que j'ai une licence en droit, je n'ai pas pu supporter ça. J'ai mis la clé sous la porte et on est descendu sur Montauban. Sur Montauban, on a téléphoné parce qu'on était à la rue. On a pris un hôtel, donc pas cher, Formule 1. Et du coup, on a payé l'hôtel jusqu'à un certain point. Et puis, à un moment donné, plus le poids, payer l'hôtel, malheureusement, quand on est artiste, c'est souvent le cas, on est assez difficilement riche. Oui. Et donc, on s'est retrouvés à coucher dans les bois. En fait, dans un bois près d'un crématorium, on a appelé le 115, on a une petite chatte vieille de 22 ans. Et
22
ils nous
ans.
Ont dit, oui, et
Dieu, ils nous incroyable. Ont dit,
et ils nous ont dit, ben voilà, vous que vous avez une chatte, c'est pas possible. Après, on a réappelé sans arrêt, la personne du 115 du 82 nous ont répondu, c'est pas la peine de nous appeler, pour vous, il n'y a rien du tout. Donc, on était désespérés, on a attendu. Et donc, il y a une femme qui nous a récupérés, qui est femme de chambre à cet hôtel. Alors, je vous appelle parce qu'on dit souvent la violence faite aux femmes, mais il y a des femmes aussi très violentes. Je vous explique pourquoi. Donc, cette femme nous a récupérés dans un village qui s'appelle Caussade. Et au début, tout marchait bien. Elle nous a dit, bon, ben voilà, vous allez loger dans un camion de 3 mètres carrés, qui était sale d'ailleurs, qui était affreux.
Oui.
Et elle avait des adolescents, dont un qui était un peu handicapé, on va dire, qui faisait qu'à 21 ans et qui fait 10 ans. Et si vous voulez, elle était très, très violente. Elle engueulait ça m'a choquée. Elle engueulait ses enfants. Elle était prête à les taper. Elle avait une balle de baseball dans la voiture pour tuer les gens. Et c'était des engueulades sans arrêt. Ferme ta gueule. Tu vas voir à tes chicots, je vais te démonter la tête, etc. Et donc, sa propre maman est en train de plus vouloir la voir. Parce que nous, on a été témoins de cette violence. On a été, cette femme, à un moment donné, donc on a voulu quitter, hein, on est parti se cacher, parce que cette femme, il faut savoir qu'elle a brûlé un appartement, qu'elle a crevé les pneus de son mari, qu'elle est allée jusqu'à s'en prendre à son propre fils, etc. Et donc, ça, c'est des sources de sa maman propre. Et nous, vu l'atmosphère qu'il y avait là-dedans, déjà, quand on était dans un camion de 3 mètres carrés, le soir, il fermait tout. Donc, quand on avait des petits besoins ou des besoins pressants, on savait pas où aller, quoi. Donc, la mesure d'hygiène, c'était catastrophique. On a 60 ans. Et donc, nous, on a dit, on ne peut plus tenir dans cette famille. On a dit, bon, ben, on a fait appel, moi, j'ai fait appel, comme je suis des médias, des journalistes de certains journaux très connus du Sud-Ouest. On a fait la une des journaux en disant un couple de 60 ans, artiste et à la rue. Et donc, on a eu des gens qui nous ont répondu, notamment quelqu'un qui habite près d'Albi et qui nous loge actuellement, mais on n'a pas d'appartement, on ne sait pas où aller. Et ça, c'est provisoire. Nous, on voulait aller sur Toulouse. Toulouse, c'est très difficile avec, vous savez, les demandes de HLM. Il faut un certain temps. Donc, on se retrouve chez des personnes âgées et on ne peut pas non plus rester éternellement chez ces personnes. Et donc là, je témoigne aussi par rapport à cette femme violente, parce qu'elle est rentrée il y a peu de temps dans ma vie privée pour m'attaquer, pour essayer d'avoir mon assistante sociale. Elle a téléphoné aux journalistes, elle m'en veut, et là on se cache vers Albi parce qu'on a peur d'elle. Et
comment ça, mais moi, vous êtes où exactement là, dans le même village qu'elle maintenant?
On est sur Albi, on est caché vers Albi, près d'Albi, donc je le dis, je tairai mon nom, là où on est, parce qu'on a terrorisé quand même par cette femme, et moi j'ai trouvé horrible, ça m'a traumatisée.
Qu'est-ce qui lui arrive à cette femme? Pourquoi elle...
Eh ben, on n'en sait rien. Moi, je pense qu'elle est soit elle a un problème mental, quoi. Je vous assure, elle raconte des histoires, mais pire qu'à pendre.
Qu'est-ce qu'elle raconte?
Il faut savoir aussi... Eh ben, elle raconte, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que c'était son ex qui avait brûlé cet appartement. Or, sa maman propre nous a dit non, pas du tout. c'est elle qui a mis le feu. Elle nous a raconté aussi qu'elle avait, que quelqu'un, son ex, avait crevé les pneus. C'était elle-même qui avait fait ça. Mm-hmm. Un jour, on a été témoin, juste dans le village, elle était en voiture. Il y a quelqu'un qui lui a grillé la place. Et elle a failli sortir et elle a failli lui taper dessus. C'est sans arrêt qu'elle veut taper sur les gens. Elle est très, très violente. Donc, même sa maman, sa propre maman la renie maintenant. Donc, nous, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus où... On n'a plus de logement, on n'a plus rien. On loge chez ces personnes âgées. Mais pour combien de temps? Et on a peur de cette femme. Alors, moi, j'ai appelé les forces de l'ordre qui m'ont dit, eh ben, on attend qu'elle porte plainte, qu'elle fasse quelque chose pour que votre plainte soit validée auprès du tribunal, enfin, auprès du parquet. Et voilà, donc moi j'ai appelé même le 115 pour essayer de la faire interner, quoi, parce que c'est pas possible. Moi, elle m'a détruit, elle me demande de l'argent par rapport aux chambres d'hôtel, à savoir que je vous ai dit qu'elle volait dans les caisses de cet hôtel.
Mais par rapport à l'hôtel, qu'est-ce qu'elle a? Elle est femme de ménage dans l'hôtel, elle a pas.
Elle est femme de ménage, simplement.
Pourquoi elle vous demande de l'argent?
Eh ben voilà, c'est parce que en fait, je vous explique, quand on était là-bas, elle nous a avancé des chambres, des nuitées, et ces nuitées étaient passées sur des gens qui venaient pas à l'hôtel, qui avaient déjà payé les chambres. Donc, on lui doit aucun argent, on n'a jamais été endetté, on n'a jamais eu, on est très honnête. Donc, mettez-vous à ma place, elle a appelé jusqu'à l'assistance sociale, les journalistes, pour dire que je lui ai fait casser son couple, alors que ce n'est pas vrai, puisque c'est son mari qui est parti. Le coup aussi qu'elle nous a fait, c'est qu'à un moment donné, on est allé à Toulouse pour chercher un appartement. Le propriétaire de l'appartement nous louait ça, mais c'était un taudis. Le mardi, elle nous avait dit bah, « vous pouvez emménager ». C'était crasseux, c'était un vrai taudis. Donc on est reparti, sa maman m'a dit bah, « écoutez, tu ne vas pas rester là, vous n'allez pas rester là, vous prenez votre chatte et puis moi je vous lâche une nuit ». Et donc on est reparti sur Koh Sade.
Chez sa maman ?
Oui, c'est sa maman qui en a très peur d'ailleurs aussi, elle se demande comment elle a fait une fille pareille. Et donc quand on est remonté de Toulouse à Koh Sade, donc 82, elle a pris des crises de nerfs, elle s'est arrêtée sur un aire d'autoroute, elle nous a balancé les valises, elle nous a balancé nous, sa maman et son mari. On est resté con, excusez-moi pour le terme, sur l'autoroute. Elle est partie tombeau ouvert, à fond de ballon, sachant aussi qu'elle n'a pas le permis depuis longtemps et qu'elle roule sans permis à fond les ballons. Et donc, on s'est retrouvés, mais vraiment con sur l'autoroute.
Mais
quoi.
Dis donc, c'est une vraie furie, cette dame-là.
Et oui, mais c'est vraiment ça. Alors, il y a des gens, j'ai des amis qui me disent « tu racontes des conneries », mais je vous assure que c'est vrai, que c'est véridique.
J'ai un article là concernant...
Voilà, de la Dépêche, voilà. Ouais, de la Dépêche, c'est véridique, mais c'est véridique. C'est ce que je vous dis est véridique.
Elle vous harcèle, en fait.
Voilà, c'est du harcèlement. Donc là,
vous êtes allé voir les gendarmes ou pas?
Alors, on est allé sur Albi. Moi, j'ai téléphoné pour... J'ai fait une pré-plainte, vous savez, par Internet, en ligne. Mais les gendarmes, je ne veux pas critiquer les forces de l'ordre, loin de là. Mais ça, vous savez, si ça ne saigne pas, s'il n'y a pas quelqu'un de mort, oui. ils ne viennent pas. Donc, même pour cette personne, j'avais signalé cette personne au commissariat de Koh Sade, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a un des enfants que je vous ai parlé tout à l'heure qui tue les animaux. Il a 21 ans. Il a tué des serpents, il a tué des perruches, il a tué beaucoup d'animaux. Et vous savez comme moi que c'est scientifiquement prouvé que ces gens-là, c'est des futurs tueurs. Et sa maman m'a toujours dit, cette femme, enfin ma fille, il y aura sûrement un meurtre un jour dans cette famille. Donc nous, on a très peur, quoi, parce que en plus, donc on est sans domicile, sans rien du tout, logé par ces personnes, ça ne peut pas durer pendant tout le temps, quoi. Nous, il nous faut un appartement, on a fait des demandes, il n'y a rien qui vient, donc on est désespéré, quoi. Mais le problème, c'est, voilà, cette femme qui est horrible, quoi. C'est pour ça que je voulais témoigner ce soir. C'est pour dire aussi aux auditeurs qu'il n'y a pas que les hommes qui sont violents, mais qu'il y a des femmes très violentes. Et ça, des fois, il faut en parler.
Oui,
parce
oui.
que nous, on a été victimes de ça. Donc, c'est une femme qui fait très peur à son mari, qui est obligée de rester avec elle sous l'emprise de cette violence.
Mais, donc, et vous, dans votre... dans votre situation actuelle, là, où est-ce que vous en êtes? Vous n'avez plus rien, plus de ressources.
On n'a plus rien. On n'a plus. Alors, on a le RSA. Moi, j'ai le RSA. Mon mari a la SS. Donc, ça fait 500 et 500. Ça fait 1000 et quelques. Ouais. C'est pas beaucoup dans la vie. C'est trois fois rien. Ben et oui. Moi, je suis artiste. Mon père, mon mari aussi. Voilà, ma voix est très connue à la radio d'ailleurs. Mais vous voyez comme quoi on peut. Non, mais
vous
très
pouvez
connue,
dire. Avec qui vous travaillez, je vois avec qui vous travaillez, voilà. Vous pouvez le dire.
J'ai fait 11 ans sur Énergie Coué.
Oui, avec
j'ai fait
Coué,
sur voltage, Coué, ouais. Voilà. Voilà, j'ai fait sur voltage avec Jordan Deluxe, j'ai fait sur VL, j'ai joué au Théâtre Saint-Martin, au Théâtre du Palace, au Théâtre Montorgueil, au Théâtre du Gymnase, etc. Donc je suis déjà bien connue et reconnue, mais le problème, voilà, c'est ce que je dis aux auditeurs, parce que j'ai souvent des gens aussi qui me disent « Oui, mais elle a travaillé chez Coué, elle a de quoi vivre ?» Ben non, parce que sachez que... Quand ils prennent des gens, c'était des... Voilà, je suis restée 11 ans avec lui parce que j'étais la voyante d'entrée-loque déjantée. Et moi, je ne demandais aucun argent. D'ailleurs, on m'a jamais
vous étiez voyante, voyante ?
Oui, j'étais voyante ventriloque. Oui. J'ai des dons de
voyance. Voyante ventriloque, d'accord.
Voilà. Mais j'ai des dons de voyance aussi, mais je le fais que pour les amis. Parce
mais
que
pourquoi
ça,
vous ne le faites pas un peu, là, pour vous sortir un peu de la mouise ?
Parce que, Olivier, c'est très... La voyance, c'est hyper fatigant. Oui. Vous ramassez tout le mal-être. Là, j'ai entendu tout à l'heure la personne d'avant. Vous ramassez tout le mal-être, vous voyez, des gens. Et c'est très difficile à supporter. Et je ne suis pas une voyante qui fait chauffer la carte, comme certains, va dire, sur les radios, qui font chauffer la carte et qui ne sont absolument pas voyantes. Moi, quand je suis voyante, je dis aux gens, j'ai toutes trois petites personnes qui sont fidèles à moi, et je dis, vous donnez ce que vous voulez. Mmh. Donc, voilà. Mais ça ne m'empêche pas que moi, j'ai un CV artistique long comme le bras, ok, mais... Nous, en ce moment, avec mon mari, on est sans domicile fixe.
Oui.
Et on a vécu pendant un mois dans un camion, comme vous avez pu voir sur l'article.
Oui, ouais, j'ai vu ça.
Dans un camion de 3 mètres carrés, avec notre vieille petite chatte, et on ne pouvait pas aller aux toilettes, on ne pouvait rien faire. Il y avait des berges allemands, et la violence de cette femme. Et moi, ça m'a traumatisée.
C'est fou qu'elle vous ait fait venir chez elle pour vous harceler comme ça.
Voilà, moi, c'est ce que je ne comprends pas, Olivier. Pourquoi c'est ce que tout le monde dit, même la dame, la personne âgée qui nous loge, elle nous dit pourquoi cette dame, même sa mère, vous a récupéré à l'hôtel pour vous loger et puis vous faire la misère.
Ben oui.
Parce qu'on n'a rien compris à la situation. Parce que c'est aberrant. Mais des fois, j'avais l'impression d'être moi-même malade psychologiquement, alors que c'était pas moi, c'était elle. Parce qu'elle était vraiment mythomane, etc. Elle vivait dans son monde de violence, dans son monde à elle. Mm-hmm. Et il faut absolument pas la contrarier. Il faut absolument pas la contredire. J'ai une anecdote que je peux raconter. J'ai dans ma famille un archéologue qui a découvert le tombeau du Christ. Ça, c'est, j'y peux rien, c'est comme ça.
Il a découvert le tombeau du Christ.
Oui, parce qu'en fait, mon papa, c'est un artiste peintre qui a exposé au musée Galliera. Vous êtes à Paris, ouais. Maintenant, qui est le musée de la mode, avec Herzog, Breyer, etc. Et dans ma famille, il y a beaucoup de gens un petit peu connus, puisqu'il y a cet archéologue-là qui avait découvert le tombeau du Christ. Et c'est effectif. Alors, je lui dis, elle me dit, non, c'est pas possible, t'es pas plus forte que moi, c'est pas vrai, Françoise. Moi, je sais qu'ils ont encore pas trouvé, ils savent même pas où il est enterré. Etc. Quoi. C'était pas la peine de discuter avec elle. Une fois, j'étais témoin, je vous assure, d'une bagarre avec son fils. Elle s'est levée, elle lui a foutu deux paires de baffes, elle lui a dit, si tu continues, je te démonte ta tête, je te casse les chevaux.
Dis donc, oui, c'est une sérieuse cliente, elle. Hein.
Ouais, mais c'est moi, ce que je dis, c'est pourquoi il n'y a pas les policiers, les gendarmes attendent comme ça qu'elle tue quelqu'un, puisque même sa mère, elle dit, un jour, ma fille, elle va tuer quelqu'un, ou son fils. Pourquoi les gendarmes attendent autant de temps?
Oui.
Parce que moi, je l'ai signalé, je l'ai même signalé au 15, au SAMU social. Maintenant, nous, on est cachés, on a peur, parce que moi, il y a dernièrement, sa maman m'a dit, au téléphone, tu sais, elle a plein de projets pour toi, et c'est moche, protège-toi bien, parce qu'elle veut te tuer. parce qu'elle te reproche d'avoir cassé son couple, elle te reproche d'être...
Pourquoi vous restez dans la région là-bas? Il n'y a rien à faire. Alors, là-bas pour vous?
Non, c'est parce que je vous explique. En fait, à Toulouse, moi, j'avais eu des propositions d'emploi, oui. Parce que j'ai une deuxième passion qui est l'art pyrotechnique. Donc, je me suis rapprochée des cités, notamment de Ruggieri, qui sont une grande société de feux d'artifice, oui. Donc, qui est à Toulouse, qui est à Muret, plus exactement. Mm-hmm. Et donc, je me suis rapprochée de là. Et vu, en plus, pardonnez-moi pour les artificiers, mais c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de monde macho. Et c'est beaucoup de monde, c'est un monde macho. Donc, j'évite trop de... Voilà, donc, ce qui fait que c'est un peu difficile de prendre contact avec eux. Ils m'ont dit, bon, si vous vous rapprochez, on va vous prendre. Mais bon, comme certains, on a besoin de manger, on a besoin de se loger. Donc, je me dis, bon, je vais travailler avec des radios, je vais travailler avec des théâtres. Mais c'est franchement pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on reste un petit peu dans cette région. Le problème, c'est qu'à Lille, ça s'est mal passé. Dans cette région, ça s'est mal passé. Moi, je suis savoyarde. J'ai plus rien en Savoie. Donc, à Paris, on était rue des Martyrs, donc en face de chez Michou. Je suis d'ailleurs passée sur la scène de chez Michou à l'époque. Et si vous voulez, on était dans un appartement où dans la chambre, il y avait 125 décibels avec un magasin, avec un restaurant. Donc, moi, j'ai fait, quand j'étais à Paris, j'ai fait un kyste au cerveau. Donc, c'est pour ça aussi, je me suis éloignée de ça. Ça passait. Ça s'est arrêté. Mais voilà, donc c'est vrai que normalement, je devrais me rapprocher de Paris, ce qui est logique parce que toutes les choses sont à Paris pour moi.
Ben oui.
Mais vous savez aussi que Paris, c'est très, très dur en ce moment par rapport au spectacle, par rapport à tout ça, c'est très difficile. Donc, souvent, on me dit, mais joue en province parce qu'effectivement, c'est peut-être plus difficile, moins exigeant de Paris. Donc, c'est ça aussi qui m'a fait descendre. Donc, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est vraiment habiter dans une grande ville par là, Bordeaux, Toulouse, etc. Parce qu'à Albi, c'est beau, mais c'est une petite ville. Donc, j'ai un peu peur, moi, perso. Et là, on est en pleine campagne, en pleine cambrousse. Et j'ai un peu peur, personnellement, de tourner en rond, ouais, et de me faire un enterrement de première classe.
À votre place, là, je bougerai rapidement. Hein, parce que si votre gagne-pain, vous l'avez bien identifié, votre gagne-pain, et ce n'est pas dans cette région-là que vous allez trouver du boulot. Donc,
parce que moi, je suis chroniqueuse aussi radio, donc il faudrait aussi... c'est vrai que c'est plus Paris, je le sais. Le problème, c'est que, c'est que maintenant, on est là, mon mari, lui, il a 60 ans, on a besoin de se poser quelque part. Oui. Effectivement, il faut qu'on se pose, parce que là, mais avec cette femme, c'est impossible. Et là, on vit chez des personnes âgées qui ont leurs problèmes, qui ont leurs petites manies, qui ont... Voilà. Donc, moi, je suis consciente que c'est très lourd aussi pour eux. Donc, et là, on est sans domicile fixe. Donc, voilà. C'est clair et net, parce que c'est pas chez nous, on a pas d'appartement. Et moi, j'ai fait des demandes de HLM, mais c'est très long. Donc, j'ai eu des touches, on va dire, avec cet article. Mais il n'y a rien qui aboutit vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'énerve un petit peu parce que j'ai eu celui de Toulouse et il voulait nous louer un studio, mais alors c'était un taudis, sale, sans eau, sans électricité, sans rien. Après, il y a un autre monsieur, effectivement, mais qui peut nous donner un appartement sous Toulouse, mais il faut passer par la commission, vous voyez, des HLM, et ça, c'est 5 ou 10 ans, hein, c'est comme Paris, hein. C'est pareil, hein, les grandes villes. Donc, qu'est-ce qu'on va devenir, quoi? Voilà.
Bon, ben, écoutez, c'est pas...
Et je voulais faire aussi un appel aux auditeurs, s'il y a quelqu'un vers Toulouse, à Bordeaux, tout ça, cette région, qu'ils puissent nous aider.
Bon, ben, écoutez, l'appel est donné, hein, ma chère Françoise. j'espère que ça va s'arranger. Faites bien attention à vous, et puis tenez-nous au courant d'évolution.
Alors,
n'hésitez
qu'est-ce qu'il faut faire, simplement, Olivier? Qu'est-ce qu'il faut faire contre cette personne?
Vous avez fait ce qu'il fallait, hein. Il faut se protéger, il faut faire une main courante. Visiblement, vous l'avez fait. Maintenant, le conseil que je vous donne, c'est de faire attention, c'est tout. Parce que si personne ne bouge, vous ne pouvez vous en remettre qu'à vous seul. Donc, du coup, faites attention. Mais de toute façon, ne restez pas trop dans la région. Encore une fois, votre gagne-pain, c'est votre métier d'artiste, donc il faut vous rapprocher au moins de Toulouse.
Aller vers les villes, Toulouse, Bordeaux, etc. Ouais. Mais le problème, c'est que là, je voudrais faire appel, s'il y a des auditeurs de Bordeaux, s'il y a des appartements, des studios, nous, on prend, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider, Bordeaux, Toulouse, voilà, ça serait le pied, quoi, comme on dit, hein.
Oui, écoutez, en tout cas, l'appel est lancé, puis si on a des coups de téléphone pour vous, on vous transmettra les appels, d'accord. On vous embrasse,
merci,
Françoise.
Bon, merci vous aussi, Olivier.
Et puis on vous souhaite bon courage. Merci.
Merci et bonne émission.
D'accord,
au revoir.
On accueille Elena maintenant au 3921. Bonsoir Elena.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Elena?
De la Mayenne.
De la Mayenne, d'accord. Et quel âge avez-vous?
J'ai 48 ans.
D'accord. Vous avez une bien belle voix, Elena. On vous l'a déjà dit.
Merci.
Non, mais c'est vrai, vous avez une belle voix. Qu'est-ce qui vous amène, Elena? Dites-moi.
Voilà. Je voulais réagir au témoignage de... Alors, excusez-moi, Amidou.
Oui.
C'est bien ça. Amidou. Je vous écoute tous les soirs.
Oui.
Et c'est vrai que ça m'est arrivé de vouloir réagir. Là, ce soir, je suis scandalisée parce que, aidez-moi un peu, parce que je suis un peu intimidée.
Mais non, mais parce que c'est tout simplement révoltant d'entendre qu'un homme père de famille de 36 ans est dans une détresse physique et que toute la famille a plongé du jour au lendemain. Je vante souvent ce beau pays qu'est la France et toutes les aides qu'on a, parce qu'on a la chance que beaucoup ignorent, parce que quand on voyage un peu, on se rend compte qu'il y a tout un tas de pays dans le monde, la grande majorité des pays, dès qu'on sort de l'Europe, et même en Europe d'ailleurs, où on ne bénéficie d'aucune aide, mais on ne peut pas accepter une situation comme celle qu'Amidou nous a raconter, en fait, c'est pas possible.
Je trouve ça scandaleux. C'est un monsieur qui devait certainement travailler, qui a ses graves soucis de maladie, qui a 4 enfants. J'entendais tout à l'heure que son épouse est allée vendre un aspirateur. J'en parlais avec Florian, et qui est allée vendre un aspirateur pour pouvoir acheter des... Je suis désolée, je suis vraiment émue. Pour pouvoir aller acheter des
protections.
Des protections.
En fait.
Des couches, et qu'on lui ferme aussi les portes. Ce monsieur prend rendez-vous avec une assistante sociale qui répond à cette famille que maintenant qu'il faut attendre. Mais attendre quoi?
Oui, oui. Attendre 6 mois, en fait.
Attendre 6 mois, hein,
si
voilà,
j'ai bien
exactement
compris. En fait, en 6 mois, avec un cancer de côlon au stade 2. On a juste le temps de mourir, je pense.
Exactement. Je suis scandalisée parce que ce monsieur, et en plus, ce monsieur Amidou, il pense à ses enfants. Il a arrêté la chimiothérapie. Il a arrêté sa chimiothérapie. Il veut se consacrer à ses enfants. Ce que je trouve tout à fait noble, c'est normal. Ce sont ses enfants. Et pour lui, ses enfants passent avant tout. Avant tout, mais il s'efface au détriment de sa santé. Et ça, je peux pas tolérer ça. Je trouve ça scandaleux. Et je voulais le dire. J'ai les coordonnées d'Amidou et je voudrais faire quelque chose aussi moi de mon côté.
Vous êtes dans quelle région, Elena?
Dans la Mayenne.
La Mayenne, c'est Laval, la Mayenne, c'est ça?
Oui, dans le Maine-et-Loire.
D'accord. Et donc, oui. Vous êtes loin quand même de chez Amidou. On peut vous mettre en contact avec lui, hein, pour étudier la situation, bien évidemment.
Absolument, bien sûr, bien sûr. Florian m'a... C'est bien Florian, hein, c'est bien
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Florian m'a donné les coordonnées, donc d'Amidou. Je vais entrer en contact avec lui, je pense, à partir de demain. À partir de demain, et je voudrais faire quelque chose. Parce que voilà, je suis vraiment bouleversée. J'étais vraiment bouleversée.
Oui, j'entends ça. J'entends que vous êtes bouleversée et révoltée. Mais bon, c'est normal. C'est une...
Tellement révoltée. Et cette personne, je ne sais pas si je vous... Je ne sais pas, parce que je me mélange un petit peu là, parce que vraiment, j'ai été... ça m'a secouée. Cette pharmacienne à qui Amidou doit la somme de 20 euros, qui s'est permise de venir à son domicile pour réclamer cette somme.
Alors, non, ce n'est pas la pharmacienne. C'est pas... je crois qu'il devait donner 20 euros pour la rentrée pour ses enfants. Vous savez, sans doute, pour les voyages de classe. Vous savez, souvent, il y a des petites cagnottes qui sont demandées. Il n'avait même pas 20 euros. Il n'a pas 20 euros.
Il n'avait même pas 20 euros. Non. Mais par contre, Amidou avait quand même une dette aussi dans une pharmacie.
À la pharmacie, oui. Il n'a pas pu payer certaines choses.
Il lui avait conseillé de voir avec la pharmacie. Et à la pharmacie, on lui a rappelé qu'il avait une dette.
Ouais.
Mais cette pharmacie doit connaître quand même la situation, je pense. Je pense pas qu'il aille dans toutes les pharmacies, dans une pharmacie en principe.
Non, mais je pense qu'Amidou, il a sa fierté de père de famille, sa fierté d'homme, et donc du coup, il l'a dit tout à l'heure, devoir de l'argent, il déteste ça, il ne le supporte pas. Donc, il y a des gens qui... Voilà. Mais en tout cas, Elena, merci d'avoir appelé l'antenne d'Europe 1 ce soir. On vous transmettra bien évidemment les coordonnées d'Amidou. Et puis, j'espère que votre échange sera fructueux. On vous embrasse bien fort en tout cas et merci pour votre réaction.
On vous embrasse.
Au revoir, Elena.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Minute 47 sur Europe 1 et on accueille Martine maintenant.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Martine.
Vous avez appelé il y a quelques mois déjà.
Oui.
Mon mari avait quitté la maison, avait été obligé d'être hospitalisé avec ayant la maladie d'Alzheimer.
Oui, ah oui, je me souviens de vous. D'accord.
Et un an après, juste un an après, parce qu'il est rentré à l'hôpital le 29 juillet.
Oui.
Et il est décédé le 23 juillet cette année.
D'accord, donc il y a deux mois.
Voilà, c'est ça. Et je disais à Florian, bon, depuis le début de la maladie, forcément, tout tournait autour de lui parce que je ne pouvais plus le laisser tout seul. Il fallait que je sois là nuit et jour avec lui.
Oui.
Et après qu'il soit parti, pendant l'année qui s'est écoulée, j'ai passé tous mes après-midi auprès de lui. À l'hôpital, puis à l'EHPAD, puisqu'il avait intégré un EHPAD. J'ai passé tous mes après-midi auprès de lui. Il est tombé dans le coma le 14 juillet. Il est décédé 9 jours plus tard et je suis restée jour et nuit auprès de lui. Et là, aujourd'hui, si vous voulez, après tout ce temps passé auprès de lui, c'est le vide, mais le vide absolu. Oui.
Il y avait quelque chose qui vous tenait, qui vous occupait l'esprit, et là, c'est le vide.
Voilà. Ouais. Et vous savez, ça m'arrivait, je rentrais le soir quand j'avais le cafard, parce qu'il n'était plus à la maison avec moi.
Ouais.
Mais je me disais, bon, allez, demain, tu vas repartir auprès de lui. Et si vous voulez, j'étais rentrée dans ce rythme-là, auquel je m'étais habituée.
On s'habitue, ouais.
Et puis là, aujourd'hui, j'ai l'impression, mais vous savez, d'un vide total. Total.
Alors
on a été un couple
c'est
très
normal,
uni,
hein, Martine.
J'avais un mari adorable.
Oui. Quel âge avait-il ?
75 ans.
75 ans, d'accord. Mm-hmm. Oui, vous êtes dans la période qui est bien évidemment compliquée. Hein. C'est une période qui va sûrement durer un peu.
Oui.
Comme je le dis régulièrement aux personnes qui appellent après le départ d'un très proche, d'un mari ou d'une épouse ou de quelqu'un qu'on aimait beaucoup, avec qui on a passé et traversé la vie, où on a passé du temps. Il y a cette période où le temps fait son œuvre, où on doit accepter ce vide. C'est compliqué, mais de toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix.
Mais non, je sais que je n'ai pas le choix, je le sais bien. Et puis, vous savez, on s'était promis avec mon mari que si un jour il y avait un des deux qui s'en allait, l'autre se devait de vivre.
Oui, bien sûr.
On s'était promis ça tous les deux et je sais que je tiendrai ma promesse, hein, c'est sûr. Mais si vous voulez, je me rends compte que tout ce temps, en fait, depuis les 4 ans, depuis le début de la maladie, eh bien, tout était axé autour de lui.
Oui, ce qui a démultiplié vos sens, votre attention vis-à-vis de lui. Vous voyez, donc,
voilà,
ce qui veut dire qu'il a pris encore plus de place.
Oui,
dans votre tête, dans votre cœur, qu'avant même, puisque avant, il était indépendant. Il est devenu
avant,
très dépendant de vous.
On était un couple uni, mais avec nos activités, avec le bonheur de se retrouver. Et là, pendant ce temps-là, je me rends compte, effectivement, maintenant, si vous voulez, que pendant ces 4 dernières années, c'était plus pareil. C'était lui. Parce que fallait que je sois présente pour lui.
Comme il aurait été présent pour vous.
Oh, tout à fait. Oh oui. Oh. Et aujourd'hui, après, vous savez, c'est là. En se posant plein de questions, quand il est à l'hôpital, est-ce que j'aurais pu le garder un petit peu plus encore à la maison? Est-ce que... Et je vois la psy de l'hôpital, qui est quelqu'un de très bien et qui nous a connus tous les deux.
Oui.
Parce que c'est elle qui suivait mon mari et qui je la vois et je peux discuter avec elle parce qu'elle nous a vus vivre ce temps-là ensemble.
Oui.
Et elle me dit vous êtes beaucoup trop sévère avec vous. Je sais que j'ai dû faire ce qu'il fallait faire, mais et puis vous savez cette saleté de maladie elle reste. On a plein de questions qui n'ont aucune réponse. Qui n'en auront jamais.
Expliquez-moi ce que vous voulez dire.
Bah, par exemple, vous voyez, quand j'essayais, mon mari ne parlait pratiquement plus. Mis à part des oui, des non. Quand je lui posais une question idiote, bête, comme ça, n'importe. Après, il me regardait. Dans son regard, je savais qu'il y avait peut-être une interrogation. Alors, est-ce qu'il n'avait pas compris ma question? Est-ce qu'il l'avait compris, mais qu'il ne pouvait plus me répondre? Vous voyez, toutes ces questions-là, on ne sait pas. On ne sait pas.
Oui. Et vous avez raison de dire que c'est cette sale maladie.
Ah ouais, qui n'a pas de remède, parce que vous voyez l'être cher qui s'enfonce très vite, parce que mon mari, ça a été très vite. Vous êtes là, spectateur, vous regardez.
Elle est terrible, cette maladie.
Et vous ne pouvez rien faire, rien. On lui donne, dans le corps médical qui a suivi mon mari, disait il a été, si vous voulez, dans la maladie comme il était dans la vie, c'est-à-dire un monsieur calme, gentil et doux. Il est resté comme ça dans la maladie. Ce n'est pas toujours le cas. Je le vois bien autour de moi. Quand j'allais le voir à l'EHPAD, je vois bien que ce n'est pas toujours le cas. Elle me disait, on rentre dans sa chambre, il nous fait un grand sourire. Mais quelquefois, j'avais envie... Quand je lui parlais beaucoup, on regardait la télévision tous les deux, on en parlait, et je voyais dans son regard, est-ce que c'était parce qu'il ne me comprenait pas, ou est-ce qu'il me comprenait qu'il ne pouvait pas me répondre?
C'est toutes ces questions que vous posez.
Toutes ces questions-là, vous voyez, qui maintenant tournent en boucle dans ma tête.
J'en profite que nous parlions de cette maladie d'Alzheimer pour... préciser à celles et ceux qui habitent la région de Nice, et Nice même, que je serai avec Elie Semoun le 16 novembre à l'Opéra de Nice, justement pour présenter une soirée où il y aura plein d'artistes qui viendront chanter, où on aura la présence du maire de Nice, bien évidemment, d'Adriana Carambeu, mais plein de, plein d'artistes de variétés qui viendront chanter. Et tous les profits de cette soirée seront reversés à une association qui lutte pour justement contre Alzheimer. Enfin, est-ce qu'on peut lutter contre Alzheimer ? En tout cas, tous les fonds récoltés durant cette soirée seront reversés pour la recherche pour lutter contre Alzheimer, contre cette maladie qui est effrayante.
C'est une maladie qui vous prend tout, votre passé, présent, votre futur, tout.
Ça annule tout, ça efface tout.
Mon mari ne se souvenait plus de les derniers temps où on arrivait encore à échanger d'une manière, par le regard ou autrement. Il ne se souvenait plus de notre vie. On a un petit chien qui était tout le temps avec lui. Tout le temps avec lui, l'après-midi, mon mari faisait la sieste dans le canapé, le sien s'allongeait contre lui. Et je lui montrais, à la fin, je ne lui montrais plus de photos parce que j'avais peur de lui faire du mal. Vous voyez, je me disais, oh mon Dieu, si jamais il a des souvenirs et qu'il cherche dans sa tête, il va être encore plus malheureux. Il ne se souvenait plus un jour, mais tout au début de sa maladie, il a eu des moments, vous savez, où tout partait, puis le lendemain, ça revenait, on pouvait dire. Il ne se rappelait même plus de mon prénom.
Oui.
Mais ça, il y a 4 ans, c'était les premiers signes, si vous voulez. Et là, à ce moment-là, on est dans le déni le plus total.
Oui. Il y avait des antécédents dans sa famille d'Alzheimer ?
Non.
Non ?
Non.
Pas du
tout.
Incroyable.
Non. Non, non, pas du tout.
C'est un peu une sale loterie, cette maladie.
Sa maman est décédée il y a un an, elle avait 96 ans.
Oui.
Non, on ne sait pas. C'est un monsieur qui était actif, qui travaillait le bois. C'était pas... c'est fou, ça.
C'est fou.
Et on ne sait pas ni... Bon, si vous voulez, en ce qui concerne mon mari, il y a peut-être... Une première cause, c'est qu'il était soigné pour l'hypertension depuis qu'il avait 30 ans. Et sans doute que cette hypertension, d'après ce que m'a expliqué la neurologue, au vu de l'IRM, elle a fait beaucoup de dégâts parce qu'il a eu des bas, des hauts, tout en ayant un traitement qu'il a toujours suivi à la lettre, tous les jours. Mais malgré tout, il avait fait un AVC en 2004. Et puis après, ce qu'il a fait, c'est de nombreux AIT qui passent complètement inaperçus. On ne s'en rend pas compte.
Des AIT, qu'est-ce que c'est ?
C'est ce qu'ils appellent un accident ischémique transitoire.
D'accord.
C'est-à-dire, vous avez tout d'un coup une pression due à la tension qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et puis qui redescend aussitôt. Bon, ça laisse à chaque fois des traces. Sur le plan cerveau, ça laisse des traces à chaque fois. Et ça monte et ça descend. Alors, mon mari ne fumait pas, ne buvait pas. Donc, si vous voulez, il y avait les artères suffisamment solides qui fait que ça n'a jamais pété.
Oui.
Mais à chaque fois, et la neurologue, elle m'expliquait, elle me disait, vous voyez, tout ça, c'est mort. C'était effarant.
On sait en plus qu'il n'y a pas de retour, malheureusement, dans cette maladie.
On sait que du moment, le jour, vous savez, on a posé le diagnostic, je savais que c'était sans espoir de rien. Il n'y a aucun espoir avec cette maladie. Aucun.
J'espère en tout cas que ce temps que vous passez là, ce vide dont vous parlez, va s'estomper.
Vous savez, ça m'arrive encore de me dire... Ça m'arrive encore de me dire « Oh, j'ai dû rêver, c'est pas possible, il va être là tout à l'heure. »
Quand vous vous réveillez le matin, surtout, je suppose.
C'est terrible.
Ouais. On vous souhaite en tout cas plein de courage, Martine. Merci
de m'avoir parlé, Olivier.
Mais je voulais vous en
parler parce qu'on s'était parlé déjà.
Non, puis vous avez bien fait parce que parler, c'est continuer à penser à lui d'une autre manière. Et puis, vous verrez, viendra un temps, ce vide. Justement, il est tellement pesant, il est tellement... étouffant, que vous verrez qu'un matin, vous vous réveillerez et il sera moins pesant et ça sera le début de quelque chose d'autre. Et vous repenserez à votre mari d'une autre manière et d'une manière beaucoup plus lumineuse, vous verrez.
Merci.
Je vous embrasse Olivier. En tout cas, Martine.
Merci et merci à Florian.
Au revoir.
Au revoir.
Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Vous pouvez composer toujours le 3921. Il y a un répondeur. Vous pouvez nous laisser un message et nous vous rappellerons dès demain. En attendant, faites de beaux rêves. Dormez bien, respirez. Pensez à tout un tas de belles choses quand vous endormez. J'ai un ami qui pense à des lapins, vous voyez ? Bon, il aime les lapins. Pensez à ce que vous voulez. On vous embrasse bien fort. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime fort et qu'on se réjouit de vous retrouver tout à l'heure à 23h. Salut.